Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Graines de Réflexion, notre chronique dédiée à la transition écologique solidaire. Je m'appelle Agathe et je suis accompagnée d'Hubert et de Victoria.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour.
Nous sommes des jeunes en service civique chez Unicité Val d'Amboise sur les thèmes de l'écologie et de l'intergénérationnel. La dernière fois, nous avons parlé du tri des déchets et du recyclage sur le Val d'Amboise. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec une série de chroniques sur le thème de la consommation responsable. Cette série se fera en plusieurs parties et cette semaine, nous commencerons avec l'alimentation responsable. En France, l'industrie de l'agroalimentaire est le premier secteur industriel aussi bien en termes de chiffre d'affaires, 180 milliards d'euros en 2017, qu'en termes d'emploi avec environ 430 000 emplois la même année. Il est important de se rappeler que l'alimentation représente une part notable de notre quotidien. En effet, c'est un besoin vital, nous consommons plusieurs fois par jour de la nourriture, elle a donc forcément un impact important sur notre santé et notre environnement. Par conséquent, certaines personnes se penchent vers une alimentation dite « responsable », c'est un mode de consommation qui prend en compte les critères du développement durable, c'est-à-dire une consommation qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, bénéfique pour l'économie, notamment locale, bonne pour la santé, mais aussi positive pour la société. Nous allons donc vous donner quelques informations sur l'alimentation responsable, en commençant par l'agriculture biologique. Je vais laisser Victoria nous donner quelques informations sur le sujet.
Oui, effectivement, Agathe. L'agriculture biologique, ou le bio, est un mode d'agriculture qui se caractérise principalement par son refus d'utiliser des produits chimiques et qui cherche à renouer avec des pratiques traditionnelles, comme par exemple avec la jachère. Cette agriculture utilise des produits aux origines naturelles, par exemple des engrais naturels, et évite les monocultures. En France, on peut reconnaître les produits certifiés biologiques grâce au label AB, créé en 1985. Bien qu'il en existe d'autres, il est le label le plus connu. Une agriculture biologique favorise une meilleure perméabilité des sols, c'est-à-dire que ces derniers retiennent mieux les nutriments et l'eau. Les engrais et les pesticides non naturels étant interdits, les eaux et nappes phréatiques sont moins polluées. De plus, une alimentation biologique est un bon moyen d'éviter d'ingérer de grandes quantités de pesticides nocifs pour la santé. Attention, le bio ne veut pas forcément dire plus cher. Et si parfois ça peut l'être, il est important de prendre en compte la qualité du produit. De plus, les produits bio étant plus lents à pousser, les agriculteurs doivent parfois augmenter un peu les prix pour équilibrer avec une productivité plus faible. Cependant, bio ne veut pas forcément dire local. En effet, on peut tout à fait trouver en magasin des kiwis bio, mais importés de Nouvelle-Zélande.
Merci Victoria. Ce qui nous amène à notre second point, manger local. Comme nous l'avons vu, le bio a certains avantages qui peuvent être complétés par une alimentation plus locale. Je vais laisser Hubert nous en dire un peu plus.
En effet Agathe, l'alimentation locale offre d'autres avantages. En effet, elle permet les circuits courts, c'est-à-dire qu'elle demande moins de moyens de transport car produit plus proche. Cela permet de réduire considérablement notre empreinte carbone. De plus, elle offre une meilleure rémunération aux agriculteurs car ils paient moins d'étapes intermédiaires, le transport, les marges faites par les industriels, la grande distribution, etc. Par exemple, si vous achetez votre lait à la ferme, l'argent versé va directement revenir à l'agriculteur. Par ce biais, vous pouvez soutenir l'économie locale. Pour trouver plus facilement des producteurs locaux sur le Val d'Amboise et sur Tours, nos collègues d'Unicité à Tours ont créé un site alimentationtouraine.fr qui répertorie une partie.
Nous avons donc vu comment mieux consommer avec le bio et le local, mais nous pouvons aussi penser à moins consommer certains types d'aliments. C'est le cas de la viande par exemple.
Et oui Agathe, jamais nous n'avons autant produit et consommé de viande qu'aujourd'hui. En 2017, 323 millions de tonnes de viande ont été produites dans le monde, selon la FAO. C'est un petit peu l'ONU de l'alimentation et de l'agriculture. Chaque année, ce sont 65 milliards d'animaux qui sont tués dans le monde, soit près de 2000 animaux tués par seconde. Cette production massive n'est pas sans conséquence sur l'environnement et notre santé. Le bétail est responsable de 65% de toutes les émissions d'oxyde d'azote dans le monde. Ce gaz est 23 fois plus puissant sur l'effet de serre que le CO2. En plus de l'impact carbone important lié à l'élevage, pour produire de la viande, il faut beaucoup d'eau. Par exemple, pour produire 1 kg de bœuf, il faut 13 500 litres d'eau, contre par exemple 700 litres d'eau pour 1 kg de maïs. Une plante pourtant réputée pour son grand besoin d'eau. Ces 13 500 litres comprennent majoritairement l'eau nécessaire pour faire pousser l'alimentation du bœuf et pour l'abreuver. On appelle cela l'empreinte eau. Selon une étude de 2013, les Européens pourraient réduire leur empreinte eau de 23% à 38% en diminuant ou supprimant la part de la viande dans les repas. La viande est aussi responsable d'une grande partie de la déforestation, notamment en Amazonie. La FAO estime que 70% de la surface agricole mondiale est utilisée soit pour le pâturage du bétail, soit pour la production de céréales destinées à les nourrir. 91% des terres récupérées dans la forêt amazonienne servent ainsi au pâturage ou à la production de soja qui nourrira plus tard le bétail. Près de 40% des céréales produites et récoltées dans le monde servent directement à nourrir ces animaux. Actuellement, cela représente au niveau mondial 800 millions de tonnes de céréales, soit assez pour nourrir 3,5 milliards d'êtres humains. De plus, une grande consommation de viande peut rapidement devenir nocive pour la santé. Par conséquent, il est recommandé de ne pas dépasser les 500 g de viande rouge par semaine, selon de nombreux nutritionnistes et diététiciens. Par exemple, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la viande rouge et la viande transformée, comme les saucisses, la charcuterie, comme probablement cancérogènes ou cancérigènes pour l'homme. La consommation de viande rouge augmente le risque de développer un cancer colorectal. Il est donc recommandé de réduire sa consommation de viande et de favoriser des viandes blanches, moins nocives pour la santé et moins consommatrices d'eau. Pour résumer, la production de viande a un impact important, que ce soit sur la santé, la production de gaz à effet de serre, la consommation d'eau ou encore la déforestation. Réduire ou supprimer sa consommation de viande est alors le moyen le plus efficace de réduire son empreinte écologique. Moins manger de viande, c'est meilleur pour la planète, la santé et le porte-monnaie.
Maintenant que nous avons parlé de la provenance des aliments, de leur qualité et de leur consommation, nous allons finir le circuit de l'aliment lorsqu'il arrive jusqu'à nos assiettes.
Et oui, pour finir, nous avons plusieurs manières de préparer un repas. Aujourd'hui, on va comparer les plats préparés et les plats faits maison. Faisons tout d'abord un constat sur la consommation de plats préparés par les Français. D'après une étude de l'INRA, l'Institut national de recherche sur l'agroalimentaire et l'environnement, publiée en mai 2020, la quantité de plats cuisinés industriels achetés pour l'alimentation à domicile, quasi inexistante en 1973, était en 2010 de l'ordre de 50 grammes par jour et par personne. Cela reflète l'intérêt pour les ménages de leur praticité compte tenu des exigences croissantes de la vie quotidienne. A l'inverse, le temps passé à cuisiner à la maison a diminué depuis 1985, avec notamment une forte augmentation des jours où les ménages ne cuisinent pas du tout. A noter que 75% du temps passé à la cuisine est de temps féminin. Les chercheurs se sont basés sur l'étude INCA de l'ANSES, Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, qui répertorie les 19 plats préparés les plus couramment consommés par la population française. Quiche Lorraine, taboulé, pâtes avec sauce, etc. Imaginons pour 4 portions. Si l'on ne tient compte que du prix d'achat, les plats industriels sont en moyenne 84 centimes plus chers que les mêmes plats faits à la maison. Quand on intègre le coût de l'énergie pour cuisiner ou réchauffer ces plats, les plats industriels restent tout de même plus chers de 60 centimes. En revanche, lorsque le temps de préparation est estimé au SMIC horaire, alors le plat réalisé à la maison est plus cher en moyenne que le plat industriel. Le Programme National Nutrition Santé recommande le fait maison, mais ne tient pas compte du coût lié au temps passé à cuisiner. Cette étude met en lumière deux choses. Dans un premier temps, l'augmentation des plats transformés achetés par les ménages, due entre autres par les contraintes de temps. Elle permet aussi de voir que si l'on rassemble toutes les variables, le temps, le prix, l'énergie, les plats préparés sont moins coûteux que les plats faits à la maison. Cela dit, pour rester en bonne santé, les plats préparés restent souvent inférieurs en qualité que ceux faits maison. Ils contiennent souvent moins de vitamines, certains minéraux peuvent être perdus, les extraits concentrés de légumes et de fruits réduisent la richesse en fibres, et des additifs et des exhausteurs de goût sont souvent utilisés. Pour aller plus loin sur les différences nutritives entre les plats préparés et les plats faits maison, je vous invite à découvrir le site de la diététicienne Caroline Joukla, basée à Nice, qui est très complet et intéressant. Pour finir, les chercheurs de l'INRA imaginent que peut-être il faille améliorer les plats industriels pour que la qualité nutritionnelle des plats soit meilleure, notamment pour les familles à faible revenu dont les contraintes de temps, de ressources et d'équipement peuvent les dissuader d'acheter et de préparer des aliments frais et périssables. Garantir la disponibilité de plats industriels pratiques, abordables et ayant une qualité nutritionnelle avérée pourrait contribuer à promouvoir une alimentation plus saine, tout en luttant contre les inégalités hommes-femmes et les inégalités sociales. En attendant, il est possible de réduire les coûts entre les deux types de plats en réduisant le temps lié à la préparation, en prenant quelques heures le week-end pour cuisiner les plats de la semaine. Cela nécessite de l'organisation et un peu de matériel de conservation, comme les tupperwares par exemple. Voilà quelques conseils. Vous pouvez par exemple établir les menus de la semaine et faire la liste de courses qui va avec et commencer à cuisiner le week-end. Et c'est finalement en fait ce qu'on appelle le batch cooking qui est devenu un terme à la mode.
Ainsi se termine notre chronique sur l'alimentation responsable. Merci à David Marion qui était à la technique et merci à Audrey Martin de nous avoir accompagnés. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site de Radioactive sur www.radioactivefm.fr. Et on se quitte en musique avec un morceau que tu as choisi, Victoria.
Oui, Agathe, j'ai choisi le morceau Stupéflip Vite du groupe Stupéflip. Sorti en 2011 dans l'album The Hypnotic Invasion, cette musique est un des plus grands succès du groupe. Interprétée par King Ju, Cadillac, MC Salo et Pop Hip, Stupéflip Vite est une véritable ode à la liberté. Le groupe s'adresse directement à nos rêves et espoirs d'enfants et nous implore de continuer à les nourrir pour ne pas se faire dévorer par l'apathie générale. Avec ses punchlines incisives qui réveillent et questionnent l'auditeur, le groupe invite à se mobiliser pour une société plus juste. Bien que cette révolte ne soit pas simple, car comme suggéré dans la musique, il est bien plus compliqué de porter ses rêves, d'être libre, voire même utopiste, que de vivre enchaîné. Et oui, car si nous avons choisi cette musique aujourd'hui, c'est parce que bien souvent, l'écologie est vue comme étant un combat perdu d'avance et utopique. Mais quelque part, est-ce qu'on n'aurait pas envie de la tenter, cette société écologique et solidaire, sans écouter ces remarques démoralisantes? À vous de voir si l'aventure vous tente. Enfin, paradoxalement, en chantant leur désolation, les artistes lancent en réalité un véritable cri d'espoir qui pourrait se résumer en deux mots. Utopiste debout.
Et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel.
Moi je rase carcapac et je t'attaque avec mon mac. La vie une chose frappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince. Tous les mardis pour te serrer la pince, donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier.
Qui partent en couille. bouillon en chipolata. Je viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4x4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Noir les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Foule sentimentale, j'étais souvent cherché. Mais où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes? Où sont les cérébrés? Ras-le-bol d'être tout seul,
je suis fatigué d'expliquer.
Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à pétard où je meurs. Alors laisse-moi triper, laisse frayer, room, non, Marie, Léon. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir.
Ah, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupéflip, vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks.
Tu l'as séquestré, baïonné.
En cet an de grâce de 1999, le crew n'était plus. Les humains avaient finalement eu raison de lui. Voilà pourquoi ce que tu écouteras sur ce disque est antérieur à 1999. Oui, le crew était mort. Mais la menuiserie, cette entité démoniaque, créatrice de ce monstre, était toujours en activité, toujours plus terrifiante.
Ha ha ha.